Radio Cité Genève, Viviane De Witt,
la bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois un conseiller de Genève et également conseiller national, Guillaume Baratson. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu à notre micro.
Merci.
On a des quantités de questions à vous poser.
Merci de m'avoir invité.
Vous savez par quelle question on va commencer ?
Je l'attends.
Vous l'attendez. Alors, quel petit garçon étiez-vous ?
Assez turbulent, mais travailleur, parce que c'est vrai qu'à l'école, mes parents attendaient que je ramène des bonnes notes. Mais j'aimais bien faire la foire avec les copains.
Alors, au-delà de ça, vous avez donc une famille qui est binationale, je crois. Racontez-nous ça.
Voilà, donc je suis italien et suisse. Je suis né en Suisse, mes parents également. Mais c'est vrai que mes grands-parents, du côté de ma mère, et puis mes arrière-grands-parents, du côté de mon père, viennent d'Italie, en particulier du Nord. Du côté de mon père, c'est la Lombardie. Du côté de ma mère, c'est la Toscane. Et donc, c'est vrai que je me sens profondément suisse. J'ai grandi ici, mais j'ai des origines italiennes et également un passeport. Et j'y suis retourné en vacances depuis que je suis petit.
D'accord, donc c'est presque un folklore, c'est une tradition familiale, mais ce n'est pas forcément quelque chose que vous vivez dans votre vie de tous les jours ?
Non, si ce n'est que ma grand-mère, c'est vrai qu'elle parle l'italien avec ma mère, donc c'est quand même assez présent dans la famille, mais ma patrie, c'est la Suisse.
Vous-même, vous parlez italien ?
Alors, je le comprends très bien, mais je ne le parle pas assez bien pour dire que je le parle.
D'accord. Alors, on va revenir, si vous voulez bien, à votre enfance. Donc, vous étiez un petit garçon turbulent. Vous aviez quand même été obligé de travailler correctement à l'école parce que les parents n'étaient pas laxistes. En gros, c'est ça. C'est ce que vous nous avez dit. Et vous avez fait votre scolarité où ?
Alors, à Genève.
À Genève.
Et puis, ensuite, j'ai fait mes études de droit à Zurich et aux États-Unis. Et puis, ensuite, j'ai commencé ma profession, donc exercer comme avocat à Genève. Avant de faire de la politique un métier, ou en tout cas un engagement à 100%, voire à 150%, depuis 2 ans.
On va en parler tout à l'heure parce qu'on dit que vous êtes un politicien heureux, quelqu'un qui aimait passionnément votre métier. Mais c'est vrai qu'avant d'arriver là, il y a tout un long parcours quand même. On n'arrive pas, on n'est pas élu du jour au lendemain, comme ça, ce n'est pas une génération spontanée. Donc, je voudrais savoir, à quel moment vous avez eu l'idée de faire de la politique ?
Je pense que ça doit dater d'il y a environ 18 ans, donc j'avais 15 ans, j'en ai 33 aujourd'hui. Mon père était très ami, mes parents, ma mère et mon père étaient très amis avec Jean-Philippe Maître, qui était un politicien genevois et suisse, à la fois connu mais aussi très respecté. Donc il venait au repas de famille et c'est comme ça que j'ai pu être en contact avec le chef de groupe du Parti démocrate chrétien à l'époque et qui était sans arrêt en contact avec le Conseil fédéral, qui nous parlait des affaires à la fois de Genève, puis ensuite de la Suisse. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Et quand j'ouvrais le journal, j'ouvrais à la fois les pages sportives, comme c'est normal quand on est ado, etc., mais également les pages de politique, et en particulier de la politique suisse. Et puis à 18 ans, j'ai décidé d'adhérer au Parti démocrate chrétien, qui était un parti qui reste un parti pour moi très, très important pour la Suisse parce que c'est à la fois la liberté, défend la liberté, mais aussi l'humanisme, c'est-à-dire qu'on laisse pas, on crée des richesses, mais on n'oublie pas les plus faibles, les plus fragiles, on tend la main à ceux qui en ont besoin. Et c'était ça que ce parti fait, et la synthèse entre ces deux pôles. Il y a aussi une histoire, hein, des catholiques à Genève, les minorités qui ont été défendues à l'époque par le parti catholique conservateur. Et puis depuis, c'est devenu un parti plus progressiste, en tout cas plus urbain à Genève. Donc j'ai adhéré aux Jeunesses démocrates chrétiennes à 18 ans. Et puis un jour, il y a un vieux politicien du parti, que je ne citerai pas, un ancien, pas un vieux, un ancien, qui est venu me dire, écoute, est-ce que tu ne voudrais pas être élu, participer plutôt, parce qu'il ne pensait pas que j'allais être élu, participer à une élection au conseil municipal de la ville. Et puis tant qu'à faire, moi je me suis dit, allez, participons. Parce que c'est encore mieux de faire de la politique au lieu de le faire un peu pour de faux, on l'a fait pour de vrai. Et puis j'ai.
Vous avez fait campagne ?
On a fait campagne avec des copains, avec le parti. Et puis,
alors comment ça se passait ? Vous alliez sur les marchés ? Vous alliez parler aux gens dans la rue ?
J'avais 19 ou 20 ans et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent. Pour faire campagne, il fallait quand même un peu. Alors le parti nous aidait. Alors on avait vendu, je me souviens, un certain nombre de biscuits. On s'était fait de l'argent pour ensuite l'investir. On avait fait des petits cartons avec le programme qu'on distribuait aux gens sur le terrain. Et donc c'est vrai que c'est. Si j'ose l'appeler ainsi, ma carrière politique a commencé à l'âge de 20 ans et j'ai été élu
constamment,
aux surprises, au conseil municipal. Mais c'est vraiment, j'ai commencé sur le terrain.
Ça, c'est assez rare d'ailleurs, parce qu'on n'est pas toujours sur le terrain au départ.
Oui, et puis bon, on n'a pas vraiment le choix quand on a 20 ans. Et c'est vrai qu'aussi, bon, mes parents sont les deux médecins. Donc c'est vrai qu'ils connaissaient beaucoup de monde. Alors j'imagine que ça a joué un rôle au départ. Mais je crois que je la dois aussi à ma volonté vraiment d'être élu. Et dès le départ, parce que je voulais m'engager. J'adore cette ville. Genève, c'est vraiment... j'aime ma ville, j'aime mon canton. Et c'était assez génial en tant qu'étudiant de pouvoir faire de la politique pour de vrai au conseil municipal. Des choses très concrètes. On peut s'engager et votre voix, elle compte un tout petit peu plus que si vous vous engagez pas, parce que quand vous êtes dans un parlement, vous êtes un parmi 80, mais enfin, si vous voulez lancer une idée, donner une impulsion, eh bien c'est comme ça qu'on le fait. D'ailleurs, je le dis parce que les élections municipales vont avoir lieu dans quelques mois, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent, des centaines, voire des milliers de personnes qui se lancent dans des conseils municipaux des différentes communes. Et c'est très noble, la politique communale.
C'est vrai. J'allais dire, la gestion municipale n'est pas tout à fait de la politique. Vous vous êtes allé au-delà, vous êtes allé en politique. Il y a de la gestion municipale aussi qui est très humaine. Cette partie-là, je pense, est importante
aussi. Oui, elle est très proche des gens. C'est encore plus vrai pour les petites communes. Voilà. Parce que vous voyez, la ville de Genève, c'est vrai que c'est déjà un petit parlement. Il y a quand même 193 000 habitants. Donc, c'est presque 200 000 habitants. C'est la plus grosse des communes. Donc, si vous voulez, c'est un tout petit peu différent en ville et dans les communes urbaines, parce que là, on a déjà des villes, des grosses villes. Genève, c'est la deuxième plus grosse ville de Suisse. Donc, il y a quand même...
Vous nous rappelez la première ?
Alors, c'est Zurich.
C'est Zurich, bien sûr.
Genève ensuite, puis Bâle, troisième. Après, il y a Berne, Lausanne, bien sûr. Il y a quand même une différence entre faire de la politique dans les villes que dans les petites communes, où là, la question partisane, l'idéologie, c'est un peu plus décorrélé de la politique politicienne. Et tant mieux, hein, de temps en temps, c'est vrai que les gens, ce qu'ils attendent, en tout cas au niveau communal, qu'on fasse pas trop dans l'idéologie, qu'on ait des idées, qu'on soit pragmatique, qu'on règle les problèmes. Moi, je suis à la tête d'un département où on s'occupe de l'environnement urbain, de la sécurité, des problématiques très concrètes, la voirie, les espaces verts, la sécurité de proximité... Ça, c'est vrai que je le vois depuis 2 ans et demi à la tête du département en tant que membre de l'exécutif. Les gens, ils s'attendent à des choses très, très concrètes et je pense qu'ils attendent des actes plutôt que des grands discours, en tout cas au niveau municipal.
On écoute un peu de musique, vous voulez bien ?
Volontiers.
Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas. Hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé hey, petite, pardon petit. Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil.
Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Bah reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec Guillaume Barazzone, qui est avocat de formation, conseiller administratif à Genève depuis 2012, conseiller national depuis 2013. Donc, un jeune politicien engagé, passionné, nous allons le voir. Guillaume Barazzone, vous nous avez expliqué tout à l'heure que cette passion était venue très tôt, que vous étiez très engagé avec une vraie foi politique. Vous nous avez expliqué aussi que le parti que vous avez choisi, le PDC, avait une sorte de position médiane entre, j'allais dire, le respect de l'économie et la nécessaire redistribution des biens et des richesses. Est-ce que j'oserais dire que vous vous sentez de cette catégorie de gens qui disent avec humour « j'ai le cœur à gauche et le portefeuille à droite »
Bah, je ne sais pas si j'ai le portefeuille à droite, je ne suis peut-être pas assez riche pour ça. Cela dit, je pense que c'est très important, au-delà de l'économie, avant de parler d'économie, c'est de parler de philosophie. Au fond, moi, je crois que l'individu doit avoir la liberté d'entreprendre, d'avoir des initiatives privées. Je ne suis pas pour que l'État s'occupe de tout. Je pense qu'on doit plus se soucier du résultat. Et au fond, on peut arriver au résultat par plusieurs manières. Bien sûr, l'État doit s'occuper des tâches très importantes, comme la sécurité, les tâches régaliennes, l'éducation, investir pour les infrastructures, la santé, éventuellement la culture, bien sûr. Mais je pense que d'autres peuvent y arriver, par exemple des associations, des fondations. Et puis, donc moi, je crois à une société libérale au sens vraiment historique du terme, où on laisse la liberté aux gens d'entreprendre et d'avoir des projets de vie. Cela étant dit, donc économiquement, ça veut aussi dire qu'il faut que les entreprises puissent avoir de la liberté, puissent entreprendre, puissent la croissance, pour moi, pour autant qu'elle soit partagée par plusieurs, ben c'est pas un gros mot. Au contraire, on crée des richesses, on redistribue ensuite ces richesses grâce à l'impôt. C'est ce qui permet de financer des prestations publiques. Mais je pense aussi qu'il faut que les plus faibles, ceux qui n'ont pas eu la chance au départ, eh bien, on puisse leur tendre la main. Parce que ces gens fragiles, ces gens les plus faibles, les plus démunis, ben je pense que la société se doit de les aider, à la fois pour eux, mais aussi pour la société dans son ensemble. Je crois qu'on doit faire en sorte qu'il y ait une certaine harmonie en société. Je crois que ça fonctionne assez bien en Suisse. Mais tout ça, ce n'est pas venu du jour au lendemain. On a bâti petit à petit ce système subtil.
Alors, rappelez-nous s'il vous plaît, bien que vous soyez très connu à Genève, votre département, parce qu'il est assez vaste et il y a des tâches qui sont très différentes les unes des autres.
Voilà, donc je préside un des 5 départements de la ville de Genève, donc je suis un des 5 membres de l'exécutif, donc de la mairie. Et puis à ce titre, je préside le département de l'environnement urbain et de la sécurité. Donc c'est en effet, il y a beaucoup de monde, 1200 personnes, 1200 employés qui travaillent principalement sur le terrain. Ça va des pompiers, qui est un service de la ville, mais qui s'occupe de l'ensemble du canton. Donc, s'il y a un feu à Corsier, au Lignon...
Ce sont des pompiers professionnels.
Exactement. Donc, c'est les professionnels. Vraiment un métier fantastique, très, très important à la fois pour la ville, mais également pour le canton, qui travaille avec les volontaires dans les différentes communes. Et puis, il y a également la police municipale, toute la gestion du domaine public, la gestion des parcs, la gestion...
C'est très varié,
tout
ça.
Voilà, la voirie, les manifestations. Quand je vous parlais de la gestion des parcs, le service des espaces verts, c'est aussi des horticulteurs, des architectes paysagistes.
Ça, c'est la jolie partie, c'est votre partie culturelle.
Alors, c'est une partie qui est très importante parce que moi, je crois beaucoup qu'un des rôles aussi on parlait du rôle de l'État au sens large, c'est d'améliorer la qualité de vie des gens. Et ce qu'on essaye de faire, c'est assurer la sécurité avec des policiers de proximité. Il y en avait 120 quand je suis arrivé et M. Maudet avait déjà commencé à lancer ce grand chantier d'une création d'une police municipale. Et puis maintenant, il y en a 200 au budget de la ville, une augmentation de 50%. Et ça, c'est très concrètement, on peut assurer la sécurité dans les quartiers. Et puis pour les parcs, c'est le fleurissement des parcs, c'est l'embellissement des parcs. On a refait les cheminements, on est en train de le faire. On rénove les bancs, travail très, très important. Ça peut paraître des petites choses. Et puis, on a lancé aussi, ça c'est vraiment une des nouveautés, la végétalisation de la ville. On a lancé ce programme Urbanature qui nous a permis de végétaliser des ponts, les rues basses, un certain nombre de places. Moi, je souhaite que chaque habitant puisse avoir à proximité immédiate de chez lui un espace vert, que ce soit des arbres, un petit espace vert, ce que les Anglais appellent des pocket parks. Vous savez, c'est ces petits espaces verts qui font que les gens qui habitent chez eux, qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin, puissent aller se détendre, respirer. Je crois que c'est ça aussi la qualité de vie, parce qu'il y a trop de quartiers bétonnés et gris.
C'est vrai.
Là, on est à la campagne, dans votre magnifique bâtiment.
On a de la chance.
On a de la chance, mais c'est vrai que moi, je ne veux pas d'une ville grise et bétonnée, et puis d'un autre côté, une belle campagne. Je veux aussi que la biodiversité, la nature puissent émerger en ville. On resserre le maillage vert entre les parcs.
C'est une très belle expression.
Et on rajoute des arbres, on plante des arbres, vraiment de manière active. Et ça, je pense qu'à terme, c'est vraiment une politique dans la durée que j'aimerais mener. Ça nous permettra de...
Est-ce que vous n'êtes pas un peu désespéré après les fêtes de Genève quand vous voyez l'état des parcs ?
Alors moi, vous savez, j'ai pris position publiquement pour dire que je pensais qu'il fallait qu'on puisse faire évoluer le concept. Nous sommes en discussion avec Genève Tourisme sur cette question-là. Je préfère ne pas en parler publiquement pour qu'on puisse avancer sur les discussions de manière sereine. Le contact passe bien. Je crois qu'on a à cœur de faire en sorte que cette fête importante pour les Genevois, à la fois pour les Genevois, mais également pour le tourisme à Genève, qui est une industrie très importante, eh bien, puisse perdurer. Moi, je crois beaucoup qu'on peut mettre en valeur la beauté du site, le lac, l'environnement. Et c'est vrai que peut-être qu'en renouvelant un peu le concept, je pense qu'on pourrait mettre en valeur des activités genevoises, comme l'horlogerie, comme les organisations internationales, et puis également que ce soit une partie festive, parce que je pense que les Genevois et les Genevoises adorent aller boire un verre au bord du lac. Magnifique, c'est extraordinaire d'avoir un lac. Moi, j'adore ce lac.
C'est vrai.
Si vous vous baladez tous les jours, quand vous regardez le Jura ou de l'autre côté le Mont Blanc, avec le lac qui change de couleur, tous les jours c'est différent, c'est fantastique.
C'est vrai. On va écouter un peu de musique, pourquoi pas du rock, puisqu'on a parlé des fêtes de Genève. I'm not alone, I'll never be.
hands at the door. I need somewhere to be, but I can't get around the river in front of me. Calm down, it's alright. Leave my arms the rest of the night. When they ask, what do I see? I say a bright white beautiful heaven hanging over me.
Cité Genève, Viviane De Witt,
la bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec Guillaume Baradzone, dont nous savons bien sûr qu'il est conseiller à Genève, qu'il est également conseiller national. On va arriver maintenant à parler quand même de cet énorme poste, parce que c'est pas n'importe quoi d'être conseiller national, Guillaume Baradzone. Alors comment c'est venu tout ça?
Eh bien, vous savez que je m'étais donc présenté au conseil administratif de la ville, donc l'exécutif de la ville. J'ai été élu à cette fonction en novembre 2012. Et puis, auparavant, j'avais participé à l'élection au conseil national. Et c'est vrai que Luc Bartassa, qui est devenu conseiller d'État, avait remporté l'élection, puisque le Parti démocrate chrétien n'a qu'un siège sur 11 à Genève. Et puis, donc, moi, j'étais ce qu'on appelle le vient-ensuite, donc le numéro 2. Monsieur Bartassa a été élu au Conseil d'État. Il a démissionné du Parlement national. Et donc, par effet automatique, j'ai été élu au Conseil national.
Alors là, c'est un tout autre débat. C'est une autre casquette d'une autre importance.
Alors, je pense que ma priorité, c'est la ville de Genève. Quand on est à l'exécutif d'une ville, je crois que c'est vraiment ça qui est le plus important, parce que là, on est à la tête d'un département, on a une grosse responsabilité.
Vous voulez dire que vous avez plus de possibilités d'action et que vous êtes un peu plus noyé au national?
Non, je dirais que c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'au niveau local, vous pouvez faire des choses très concrètes. Et puis c'est vrai qu'en étant le président d'un département, vous pouvez avoir plus d'influence sur les choses très concrètes et les actions que mène le département, donner la vision politique et faire en sorte que ensuite le département essaye d'exécuter et de mettre en œuvre une vision politique. Et au niveau national, c'est vrai que à la fois vous êtes le 1 parmi 200, voire 246 puisqu'il y a deux chambres, mais vous pouvez aussi d'une certaine manière aussi influencer à votre niveau avec d'autres surtout, parce que la politique,
vous faites c'est pas... des groupes alors à ce moment-là,
c'est ça. Non seulement des partis politiques, mais il y a aussi des alliances entre par exemple les villes, les cantons urbains sur un certain nombre de thématiques. Et moi, je vois pas la politique comme étant un travail où je fais des horaires de bureau, je me lève à 8 heures, j'arrêterai à 5 heures. Moi, c'est un engagement à fond.
Permanent.
J'ai la chance d'être jeune et d'avoir beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que, alors ça me demande une belle organisation. Mais cet engagement à Berne, je l'ai accepté parce que je suis convaincu que Genève s'est beaucoup coupé de la Confédération. On a fêté le bicentenaire de l'entrée de Genève dans la Confédération. De plus en plus de décisions se prennent au niveau national et ont un impact direct à Genève. On ne va pas faire beaucoup de politique, mais je vous donne un ou deux exemples sur l'immigration. C'est vrai que la Suisse a décidé, le peuple suisse, de limiter l'immigration. Ça va poser un certain nombre de problèmes, en particulier à Genève, parce qu'on a une économie qui nécessite aussi d'avoir beaucoup de forces vives. On a des organisations internationales, ça va poser des problèmes. On a des réformes fiscales en cours et tout ça. Mais ces décisions, elles se prennent à Berne. Donc, si vous voulez, c'est un peu le prolongement de mon engagement politique sur des thématiques qui me sont chères. Et puis, de temps à autre, ça peut aussi avoir du bon parce qu'on est aux premières lignes pour avoir les informations. Et je pense que c'est important, en tant que magistrat municipal d'une ville importante, d'avoir ce lien. Et moi, si vous voulez, j'ai eu cette chance, puisque M. Bartassa, en quelque sorte, laissait la place de pouvoir prolonger cet engagement. Et ma priorité, c'est Genève.
Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a eu l'été 2014, sur votre blog, vous avez parlé d'une saison noire pour la Genève humaniste. Vous pouvez nous en parler?
Oui, c'est vrai que de plus en plus de partis, d'individus et de personnalités politiques prennent des positions que je trouve extrêmes, notamment sur les questions de l'asile, de notre rapport à l'étranger. C'est vrai que certains partis veulent faire en sorte que le droit national prime sur le droit international, mais enfin, Genève...
Il y a même eu une résiliation des accords bilatéraux, ça c'est
voilà,
énorme.
Voilà, non seulement les accords bilatéraux nous ont beaucoup apporté en termes de prospérité, on est devenu plus riche à tous les points de vue, en termes de connaissances, en termes de recherche, on peut participer à des programmes européens en matière économique, ça nous a apporté aussi l'accès à des marchés européens en matière de transport, c'est vrai que c'est aussi notre relation à l'Europe qui est en jeu.
C'était pas seulement économique, c'était aussi un été qui était un été qui a... On a empêché, par exemple, les demandes d'asile de pouvoir fonctionner normalement.
Ouais, alors
c'est grave,
vrai que cet
ça,
été,
c'est sur le plan humaniste.
Ouais, j'ai dénoncé vraiment très fortement les velléités de l'UDC de vouloir lancer une initiative qui était, à mon sens, mais beaucoup trop extrémiste. On voulait limiter les demandeurs d'asile et l'accès pour les demandeurs d'asile en Suisse à tous ceux qui arrivaient par avion.
C'est pas possible.
Donc ceux qui n'avaient pas le bon goût d'arriver en avion, c'était loin dehors. Ouais. Moi, c'est pas ma conception de la vie, de mes valeurs. C'est vrai que la Suisse ne peut pas accueillir l'ensemble des réfugiés et des demandeurs d'asile de ce monde. Mais enfin, il y a quand même des choses affreuses qui se passent. Je prends l'exemple de la Syrie, de l'Érythrée et d'autres pays africains, par exemple. Et je dis, on est quand même Genève. C'est quand même la ville des conventions de Genève, le canton d'origine du CICR. Cet héritage humaniste, on en est dépositaire.
On n'est pas le pays
et
du surtout, repli, historiquement, ça c'est
puis,
clair.
Et puis au-delà de ça, à titre personnel, ce n'est pas l'éducation que j'ai reçue. C'est vrai que j'ai été éduqué, je vous le disais, libéral. Je me considère comme quelqu'un de très libéral, parce que je pense qu'il faut laisser de la liberté aux gens, mais il faut avoir aussi, il faut aider ceux qui souffrent le plus. Et donc là, vraiment, je pense que je comprends, c'est les élections, chaque parti veut se positionner, mais enfin, moi, je ne suis pas prêt, je trouve qu'on ne devrait pas être prêt à tout pour faire des voix, et là, c'était vraiment
vous,
too much, comme on dit en anglais.
Vous voulez défendre la Suisse généreuse et humaniste, en fait, c'est
ouais,
ça.
Mais ce qui tient sur les principes, aussi une Suisse qui dit à ses citoyens, à ses habitants, soyez responsables, mais enfin, qui n'oublie pas ses valeurs.
On va écouter de la musique à nouveau.
Come mi vuoi? Cosa mi dai? Dove mi porti tu? Mi piacerai, mi capirai. Sai come prendermi? Dammi un sandwich e un po' di indecenza. È una musica turca anche lei. Metti forte che riempia la stanza di incantesimi e di spari e petardi. Ehi, come mi vuoi? Che si senta anche il pullman perduto una volta lontano da qui. E l'odore di spezie che ha il buio, con noi due dentro al buio abbracciati. Ehi, come mi vuoi? Thank you. dammi un sandwich e un po' di indecenza. È una musica turca anche lei. Metti forte che riempia la stanza di incantesimi e di spari e petardi.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec Guillaume Baradzone. Guillaume Baradzone, vous le savez, conseiller de Genève, conseiller national, avocat de formation, un humaniste, on vient de le voir tout à l'heure. Et maintenant, j'ai envie de lui poser une question, mon Dieu. En tant que femme, je vais vous dire, j'ai été un petit peu interpellée par votre discrimination positive lorsque vous avez rentré dans les cadres. Enfin, c'est pas dans les cadres, c'est dans les cantonniers, je crois. Quatre femmes. Alors, la discrimination positive, vous pouvez nous en parler, comme vous la voyez?
Bon, après, c'est une question de définition. Moi, ce qui m'a choqué en arrivant à la voirie, en tant que président de ce département, donc la voirie est un des services du département que j'ai l'honneur de présider, c'est qu'il n'y avait pas de femmes. Et puis, moi, je me dis, mais comment ça se fait, quand même, dans l'administration municipale, que le plus gros service, le plus grand service de l'administration ne comprenne aucune femme? Et donc, c'est vrai que, après, les gens ont parlé de discrimination positive, je ne sais pas d'ailleurs si c'est la bonne définition, mais moi, ce que j'ai décidé, c'est qu'il fallait qu'on engage des femmes à la voirie.
Et que... Alors, elles sont sur le terrain, elles sont dans la rue, elles sont...
Il y a non seulement des femmes qui sont cantonnières, qui travaillent sur le terrain, qui embellissent la ville, la rendent plus propre, au même titre que les hommes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elles font un travail impeccable, et puis que j'entendais certains dire « ouais, ouais, les dames n'y arriveront pas ». Et puis, il y a également la sous-chef, donc la numéro 2 de la voirie, d'une des unités, est une femme. Elle dirige cette unité vraiment de manière tout à fait professionnelle, impeccable. Et puis, c'est vrai qu'au départ, certains avaient peur que les hommes, dans le fond, maltraitent ces femmes. Ça s'est très, très bien passé. Et puis surtout, moi, je disais à tous ceux qui disaient « Mais enfin, Baradzone, mais qu'est-ce que tu fais? T'engages des femmes? Est-ce que c'est pas un peu limite, là, tu leur donnes un balai pour travailler. » Moi, je leur disais simplement que c'est une grande hypocrisie. Parce que toutes ces femmes qui travaillent, qui font des ménages et qui sont payées deux fois moins que celles qu'on paye à la voirie, celles-là, par contre, j'entendais très, très peu de monde
pour les défendre
et dénoncer cette situation-là. Donc moi, je pense que c'est simplement de la normalité que les hommes et les femmes travaillent dans tous les services de l'administration, on n'a forcé personne et elles sont, je crois, très contentes. On en avait 4 la première année, on en a désormais 8. Et puis, on continuera à engager des hommes et des femmes dans tous les services.
Sur, au fond, des critères de compétences.
Exact.
Voilà, et de capacité.
Exact.
Alors, ça, ce n'est pas exactement la discrimination positive. Discrimination positive, c'est plutôt de favoriser les femmes, l'accession des femmes à certains postes, par priorité, parce qu'elles sont femmes. Alors ça, c'est un peu différent. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans votre idée, je crois.
Non, c'était pas ça l'idée. La seule chose, c'est qu'on se disait qu'avec plus de 300 hommes à la voirie, c'était pas un cadeau d'en engager qu'une. Au fond, on voulait qu'elles soient quelques-unes, pour pas que celles qui étaient engagées se disent « mais enfin, je suis toute seule
Quelquefois, il y a une ou deux femmes sur des sous-marins à l'étranger.
Ouais, voilà, donc chaque année, on engage environ 10 personnes à la voirie, parce qu'il y a des départs à la retraite, donc c'est du renouvellement naturel. Et là, donc, on a fait 50-50, quelques femmes, quelques hommes, ce que je trouve normal. Moi, j'ai été éduqué par une maman qui a travaillé, qui est médecin. Qui faisait des gardes. Enfin, moi, j'ai toujours vécu avec une maman et un papa qui travaillaient.
Bien sûr. Et alors, dans la police municipale, il y a des femmes aussi.
Il y a des femmes. Il y a des femmes dans tous les services de l'administration. Et je vous dis, la voirie, c'était le seul service. Il y avait une chasse gardée. Et puis, c'est vrai qu'on essaye, on est au 21e siècle. C'était le moment de changer un peu la culture.
Et les pompiers?
Ah, les pompiers, il y a également 2 sapeurs-pompiers professionnels qui travaillent...
Qui sont des femmes.
Voilà, qui travaillent sur le terrain. Au SIS, donc au service d'incendie et de secours, vous avez à la fois des pompiers professionnels, mais également des ambulancières. Là, elles sont en majorité. C'est un travail aussi très difficile. Et vraiment, elles le font à merveille. Donc, ça se passe très bien. Et je pense que c'est tout simplement une question d'équilibre. On parle des hommes et des femmes. On peut aussi parler... y a des gens introvertis, d'autres extravertis. Il faut un peu de tout. Et je pense qu'en termes de management, on arrive au meilleur résultat quand on a une addition de différents types de personnalités et puis aussi de background, parce que c'est important, ça enrichit le travail et aussi la culture d'entreprise.
Je crois que vous êtes très à l'écoute de la population, de ses besoins. Vous avez par exemple modifié les horaires de la voirie pour enlever les déchets pendant le week-end. Ça, c'était un vrai problème, ça.
C'est vrai que la voirie travaillait, je dirais schématiquement, que 5 jours sur 7, de temps en temps un peu le week-end, mais on s'est rendu compte que les plus gros problèmes qui se posaient, c'était le week-end, parce que la population, bien, au fond,
elle consomme davantage pendant le week-end.
Le soir en particulier, et c'est vrai que le lendemain, voilà, les gens ont travaillé, il y a des gens qui travaillent le week-end, mais enfin, la plupart des gens travaillent la semaine, ils ont envie de profiter de la ville le week-end, et puis, donc, la perception qu'ont les gens de la ville, elle est différente le week-end, et il y a une attente du public qui est très forte. Et c'est vrai que des gens qui, et moi-même, hein, quand je constatais que des parcs étaient, excusez-moi, dégueulasses le matin, c'était inadmissible. Donc, on a complètement réorganisé le travail, on a lissé le travail. Donc, les lundis et les vendredis, il y avait un peu moins de travail à faire. On a diminué les équipes. Et puis maintenant, on les fait travailler le week-end. Donc, 7 jours sur 7, 365 jours par année, la voirie s'occupe à la fois du domaine public et des parcs. On a réussi, grâce à cela, à augmenter le nombre de surfaces de 30% avec le même nombre de personnes. Donc, ça, c'était...
Ça, c'est un vrai succès.
Ouais, c'est un succès. Puis, il n'y a pas eu... C'est vrai qu'on a beaucoup de tensions sociales. Je dois dire qu'on a beaucoup travaillé avec les employés parce que c'est sur le terrain qu'eux connaissent les problématiques. Les problématiques au Paquis ne sont pas forcément les mêmes qu'à la Jonction. Donc, c'est eux qui nous ont aidés à adapter les horaires et adapter notre... Donc, ça s'est fait avec eux.
Vous vous sentez un peu comme un chef d'entreprise avec des collaborateurs ou vous vous sentez vraiment un politicien, parce que là, vous agissez un peu, pour moi, comme un chef d'entreprise. Vous êtes au contact.
C'est-à-dire que le chef d'entreprise, lui, dans une entreprise privée, lui, doit faire des revenus parce qu'au fond, il doit vendre des produits.
Vous vendez un peu la ville aussi, parce qu'il faut qu'elle soit belle, qu'elle soit propre, qu'elle soit avenante.
C'est-à-dire que le critère, le sens, c'est pas forcément le même. Ça peut être un attachement à un produit, mais ensuite, vous devez vendre votre produit, quand même dégager une marge, faire des revenus pour pouvoir payer les salaires. Là, c'est différent. On a une autre type de responsabilité. Non seulement parce qu'on doit, en tant que politicien, avoir une vision, on doit défendre le programme politique pour lequel on a été élu, on doit aussi faire des compromis, parce que quand on est dans un conseil administratif, on est 5.
On n'est pas tous du même avis.
Moi, je suis le seul de centre-droit, alors que mes collègues sont de gauche. C'est vrai que là, il faut faire quand même des compromis pour faire avancer des projets. Mais vous avez ensuite, et je pense que là, il n'y a pas de différence. Il faut quand même que le résultat soit non seulement efficace, mais qu'on parle aussi d'efficience, parce que c'est vrai qu'au final, on s'occupe de... C'est l'argent du contribuable, et donc il faut bien s'en occuper, et donc on a cette responsabilité-là. Puis je crois qu'au même titre que l'entrepreneur a des idées, on doit aussi, nous, avoir des idées, demander à nos employés d'en avoir, parce que on doit... Je pense que l'État doit aussi se réinventer. C'est-à-dire que pour que le service public soit fort et puisse être pérenne et qu'on fasse du développement durable, il faut aussi que l'administration publique soit capable de se réformer comme une entreprise doit le faire. Sinon, l'entreprise, ben, elle coule, elle fait faillite.
Alors, on ne va évidemment pas souhaiter ça. On va écouter un peu de musique classique cette fois-ci, d'accord ?
Radio Cité Genève. Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans La bouteille à moitié pleine avec Guillaume Barazzone. Guillaume Barazzone, un politicien passionné, heureux. Je crois qu'on peut dire heureux parce que vous avez les yeux qui brillent tout en nous racontant tout ça. Alors, aujourd'hui, vous avez 33 ans, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez certainement plein de rêves, vous avez déjà réussi beaucoup de choses. Quels sont vos prochains rêves pour Genève?
Bon, alors le prochain rêve, c'est déjà que les gens se sentent bien. Je pense qu'on parle beaucoup des problèmes. J'aimerais que la plupart des gens qui habitent dans la ville puissent se sentir bien, se disent, ben voilà, dans mon quartier, j'ai de la qualité de vie. Pour moi, ça passe par plusieurs choses. Ça passe par, c'est sûr, de pouvoir sortir de chez soi à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit.
Sans se faire agresser, c'est clair.
Sans se faire agresser. Ça, c'est la sécurité, ça, c'est le boulot de la police cantonale, bien sûr, mais également de la sécurité de proximité qui est incarnée par la police municipale. Là, on a fait vraiment des efforts, on a augmenté les effectifs, on a de nouvelles compétences, on s'occupe maintenant de délinquance de rue, on revient de loin. La police municipale n'en était pas une il y a quelques années. Ils s'occupaient du contrôle du stationnement. Maintenant, on s'occupe de la lutte contre la délinquance de rue et des incivilités.
Et quid des tags? Parce que c'est vilain, tous ces tags. Ça fait quand même une ville un peu sale.
La ville, c'est aussi une ville propre. Moi, je souhaite que la ville soit propre et soit plus belle. Et c'est vrai que les tags, c'est vraiment ce qui est le plus
visible.
Parce
que ce n'est pas exactement du street art que l'on voit à Genève.
Exact. Et là, je crois qu'il faut différencier les graffitis qui peuvent être de l'art.
Tout à fait.
Et puis des tags. Et c'est la raison pour laquelle on a créé... Il y a quelques mois, une unité anti-tag qui a nettoyé l'ensemble des tags de la ville. Alors, au fur et à mesure,
enfin,
il y en a de nouveaux. Mais,
il tourne le dos et ça refleurit.
Mais on le fait continuellement. Donc, on a maintenant une unité qui tourne dans la ville et qui nettoie systématiquement les tags. Et puis, une ville plus belle, c'est aussi une ville, pour moi, plus verte. Je pense que c'est très important d'avoir une vraie politique environnementale. Et là, on essaie, je vous le disais tout à l'heure, de resserrer ce maillage vert. On a de la chance d'avoir des magnifiques parcs à Genève. On essaie de les embellir, de les fleurir davantage. Mais je crois aussi qu'il faut qu'on se soucie des quartiers qui sont trop gris, trop bétonnés, donc des rues, des places. Donc on a planté, par exemple, en 2 ans, d'ici à la fin du printemps, on aura planté plus de 486 arbres. De mémoire, je crois que j'ai le chiffre, parce que dans la rue, dans les parcs, et ça, c'est très important parce que je souhaite qu'à l'avenir, on ait que chaque habitant ou chaque habitante ait à proximité de chez elle ou de chez lui un espace vert. Ça peut être un tout petit espace. Donc on va casser du béton dans les 5 prochaines années pour remplacer ça par des espaces verts et puis planter davantage d'arbres. Donc on aura des parcs, plus d'arbres, des espaces fleuris, des espaces verts. Et comme ça, on aura vraiment ce maillage, ce filet vert qui se resserre. Non seulement c'est plus beau, mais c'est aussi mieux pour l'être humain parce que les arbres, ça fixe le CO2, ça l'absorbe, ça libère de l'oxygène, ça rafraîchit l'air l'été quand il fait trop chaud. Ça permet vraiment de lutter contre la pollution et surtout, ça crée un biotope. Vous avez des oiseaux qui apparaissent. Enfin, ça peut changer complètement la vie d'un quartier.
Est-ce que la population est impliquée dans tous ces changements? Parce que tout ça, ce sont des décisions politiques, ce sont des décisions généreuses, ce sont des décisions administratives. Mais ça ne met pas en scène les habitants de la ville. Est-ce que vous les impliquez dans tout ça?
Alors, bien sûr. Alors, moi, je pense que le rôle d'un politique, c'est aussi d'avoir une vision. Je vous ai dit, moi je veux que Genève devienne une des villes les plus vertes d'Europe, voire du monde. Ça serait mon rêve.
Ça, c'est un vrai rêve. Alors.
C'est un vrai rêve.
Un beau
et puis
rêve.
Surtout, et je pense qu'on peut y parvenir. Ça, c'est fixer la vision. Mais ensuite, je pense qu'il y a vraiment une marge de négociation avec la population sur le comment. Parce que c'est vrai que, par exemple, je prends l'exemple d'Epaki. Ce quartier, c'est vrai qu'il est très dense, très gris, très bétonné. Et c'est au fond ceux qui y habitent qui peuvent le mieux, qui ont des attentes particulières. Et donc, moi, j'ai été rencontrer l'ensemble des habitants des différents quartiers, dans les associations de quartiers, les maisons de quartier.
Est-ce qu'ils ressentaient le besoin de verdure?
Alors, cette vision, je l'ai aussi construite au fur et à mesure de mes rencontres avec les gens. Au fond, les convictions politiques qu'on peut avoir en arrivant à l'exécutif, elles se renforcent ou elles peuvent se recentrer ou diverger en fonction de la confrontation avec le terrain, avec la réalité, puis avec ce que nous disent les gens. Énormément de gens qui m'écrivent. Soit pour nous féliciter, ou alors pour nous dire, est-ce qu'on pourrait pas nous donner un petit coup de main à cet endroit-là? Et c'est vrai que les gens disaient, mais c'est vrai qu'on aimerait beaucoup plus d'arbres, et puis c'est vrai que les gens, la sécurité, c'est quelque chose d'important, et la propreté. Et au fond, c'est 3 thématiques qui nous animent dans le département, tous les jours, parce que, moi j'ai la chance d'avoir 1100 collaborateurs vraiment de valeur, mais qui sont en contact avec les gens. Ça peut des fois être compliqué pour un politicien, parce qu'à la moindre petite étincelle, ça remonte, les médias, etc. Mais
les médias vous laissent assez tranquille, Guillaume Bradson, quand même. Je pense que vous avez même un capital sympathie important.
Alors, ça, c'est pas à moi de le dire, mais vous savez, il faut se méfier de tout ça, parce que ça peut vite changer.
Oui, oui, mais oui, cela il peut dit, y avoir des mouvements d'humeur, bien
cela
sûr.
Cela dit,
mais globalement, vous avez une cote favorable, quand
au-delà
même.
Au-delà de ça, je pense que c'est important de trouver ce juste milieu entre pas surréagir au sein de l'administration, parce que c'est souvent une minorité qui gueule le plus fort, qui n'a pas forcément raison, parce que la majorité silencieuse ne dit rien, et puis de quand même être à l'écoute des gens, parce que quand ils vous écrivent, moi, je leur réponds directement, soit moi, soit mes services. C'est important que l'administration, on est au service des gens. On n'est pas là pour se faire plaisir. On est au service des gens qui payent des impôts, qui nous élisent. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. J'ai toujours, à mes équipes, je viens de prononcer un discours à l'ensemble des collaborateurs du département. Je leur ai dit, votre patron, ce n'est pas moi, mais c'est...
L'habitant.
On a le même, c'est les habitantes et les habitants de la ville de Genève. Et ça, je crois qu'il ne faut jamais l'oublier.
Vous êtes conscient qu'il y a très peu d'hommes politiques dans le monde, on ne va pas dire seulement à Genève, qui pensent comme ça. Ils ont toujours un peu l'impression quand même, parce que quand on accède au pouvoir, c'est un peu grisant. Et tout le monde n'a pas le sentiment...
Je dirais qu'en Suisse, ce n'est pas vraiment ce que je ressens. Je ressens, c'est vrai, des fois, en tout cas au niveau municipal, la plupart des maires, conseillers administratifs, en tout cas dans le canton de Genève que je croise, des différentes communes...
Sont au service, souvent, vous avez raison.
La plupart d'entre eux me semblent être au service des...
Tout à fait.
Là, bien sûr, on a de l'ambition, l'ambition personnelle. Moi, je ne vais pas le cacher, je peux aussi... C'est important d'être ambitieux. Ambitieux pour soi-même et pour les gens, parce que... Mais moi, je crois qu'il faut pouvoir faire des projets. Moi, je ne suis pas là pour... Il y a des politiciens... Ceux vraiment qui me restent en travers de la gorge, c'est ceux qui bâtissent leur carrière politique en descendant les autres, en se plaignant tout le temps et en disant qu'il n'y a rien qui va. Ben ça, c'est facile, mais au fond, le plus dur, c'est de construire. Et je crois que les gens, ils attendent quand même de nous qu'on avance, qu'on essaie de changer, qu'on ait des idées. Et puis, ma foi, après, les gens, ils aiment, ils prennent ou ils ne prennent pas. Mais c'est ça qui m'intéresse, moi.
Vous avez employé le mot de vision tout à l'heure.
Oui, d'avoir une vision, mais elle peut être micro, elle peut être macro, mais au fond, il faut pouvoir faire des projets. Donc au-delà de l'idéologie, des valeurs pour lesquelles on se bat, qui sont très très importantes, c'est important aussi d'avoir en tête que les gens, ils attendent de nous qu'on mette aussi nos querelles politiciennes de côté et qu'on fasse avancer des dossiers.
Je crois que c'est parfaitement exact.
Et que ces dossiers, ils s'inscrivent dans la durée. Je pense que c'est aussi important.
On va écouter de la musique à nouveau.
Ocean blue, what have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through. Hold tight.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec Guillaume Baradzone. Guillaume Baradzone, avocat, conseiller de Genève, conseiller national, passionné, non pas seulement de politique, passionné du service des autres, passionné de sa ville, on l'a vu tout à l'heure. Alors j'ai envie de vous poser une dernière question parce que, hélas, on arrive un peu au terme de cette émission, on aimerait vous écouter pendant des heures. Qu'est-ce que vous avez accumulé comme expérience qui vous a permis aujourd'hui d'être ce que vous êtes et d'avoir cette philosophie?
Bon, la première expérience, c'est l'éducation qu'on reçoit. Et ça, c'est vrai que j'ai été éduqué par deux parents qui sont au service des autres. C'est vraiment, ils sont médecins, c'est une profession pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, parce que c'est vrai que j'ai pu remarquer, depuis que je suis petit, mes parents soignent... que ce soit l'ouvrier, le diplomate, au fond, ils aiment les gens, ils le font pour eux. Et puis c'est vrai qu'ils... Moi, je trouve que ce métier est fantastique. Oh, peut-être que c'est un peu... Je suis un peu partial parce que mes parents le font.
Non, ce sont des gens, par définition, qui sont généreux.
Et c'est vrai que les gens qui travaillent dans le milieu médical, mais dans toute une série de domaines, au service des autres, c'est fantastique. Mais c'est aussi la chance que j'ai eue. Ça, je dois dire que j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que mes parents aimaient beaucoup voyager. Ils nous ont emmenés en Afrique. On a eu la chance de pouvoir, avec mon frère et ma sœur, voyager avec eux, puis c'est une passion que j'ai gardée. Et donc, dès que j'ai un peu de temps, j'essaie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, parce que je pense que c'est à la fois, on découvre d'autres cultures, d'autres paysages, d'autres gens, puis aussi des idées.
Je crois que vous avez été très marqué par New York.
Alors, déjà par Zurich. J'ai étudié à Zurich, c'est vrai que la Suisse allemande, c'est vrai que depuis Genève, on la connaît peu, et c'est vrai que c'est une autre culture, mais c'est aussi ce qui fait la Suisse, donc ça m'a beaucoup apporté. New York, vous en avez parlé, c'est une ville extraordinaire, plus de 10 millions d'habitants, c'est un petit monde, c'est une ville extraordinaire. Parce
il y a une énergie colossale.
Une énergie folle, une volonté d'entreprendre, où au fond, en Suisse, quand vous lancez un business, que vous avez une idée, et puis que vous échouez, vous tombez en faillite, les gens vous prennent pour un espèce de brigand qu'il faudrait mettre en tôle dans les secondes qui suivent. Alors qu'aux États-Unis, on vous dit, mais si t'as pas raté plusieurs idées, puis t'as pas eu trois sociétés en faillite, c'est qu'au fond, t'as pris aucun risque et donc t'es un nul. Je résume un peu, je schématise.
Non, c'est à peu près ça,
mais au fond, il y a ce côté d'entrepreneuriat qui est extraordinaire. Et puis, toute une série d'autres voyages que j'ai fait, que ce soit la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Éthiopie, c'est des pays que j'ai pu visiter et qui m'ont ouvert les yeux. Et je pense que au-delà d'ouvrir les yeux, ça m'a permis aussi d'avoir cette culture d'aller piocher des idées ailleurs. Je pense qu'on peut avoir des idées, des bonnes idées soi-même, mais d'autres ont aussi des bonnes idées.
On réinvente pas la roue tous les matins.
Et pour l'administration, on prend cet exemple. Des fois, c'est aussi bien d'aller voir ce qui se passe à Fribourg et à Lausanne, et puis d'importer les bonnes idées ici, voir au-delà. Je pense que Genève doit pas avoir peur de s'ouvrir pour ça, de la concurrence saine, d'idées nouvelles, de l'innovation. Et si je devais vraiment avoir un plaidoyer pour l'avenir, il faut pas qu'on ait peur, il faut qu'on ait confiance en notre avenir. On a vraiment un potentiel, mais il faudra innover parce que la concurrence, elle devient rude. C'est vrai qu'on vit dans une économie mondialisée et je pense que les Genevoises et les Genevois, les Suisses, de manière générale, on est tout à fait prêts à faire face à cette situation. Mais il faut s'ouvrir, il ne faut pas se recroqueviller. Le protectionnisme à la fois économique, culturel, moi, c'est ce qui me fait peur, ce n'est pas ce qui me motive. C'est en tout cas pas pour ça que je me battrais.
Alors, une Genève humaniste, vous l'avez dit tout à l'heure, ouverte aux autres. Une Genève verte.
Une Genève sûre.
Une Genève sûre.
Dynamique et une Genève plus belle.
Une Genève plus belle et un État qui doit se réinventer. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont vos vœux. Guillaume Baradzone, merci d'être venu à notre micro de Radio Cité Genève. Un dernier vœu, un dernier mot?
Non, je souhaite vraiment que cette année 2015 soit une année réussie pour tous les projets que nous essayons d'entreprendre. Et puis, je pense qu'il faut avoir confiance en nous-mêmes. Il ne faut pas avoir peur d'innover. Et puis, ne pas oublier que ceux qui n'ont justement pas forcément la même chance que les autres, il ne faut pas les laisser au bord du chemin, il faut leur tendre la main.
Alors, merci pour ce cœur que vous avez su décrire aujourd'hui. Merci pour cette action inlassable au service de la ville et de vos concitoyens. Merci d'être venu ici aujourd'hui. On espère vous revoir prochainement, bientôt, pour de prochaines grandes aventures et grandes envolées. On aime beaucoup votre action. Merci infiniment. Et je remercie aussi Alexandre Jean Renaud qui a aujourd'hui monté cette émission et qui nous a enregistrés. À bientôt.
Merci pour l'invitation.
Avec grand plaisir.
À bientôt.
À une prochaine fois. Au revoir.